Bonjour, je vous propose de commencer dès maintenant puisque donc Alain, qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui, doit impérativement quitter ces lieux à 19h20 en raison d'un avion qui n'attendra pas, hélas pour nous. Donc je vais faire une présentation très très courte et ensuite céder volontiers la parole à Alain Ehrenberg qui présentera son travail. Et vous aurez quand même ensuite une bonne demi-heure pour lui poser des questions. Donc je suis très heureux de recevoir Alain Ehrenberg pour ce livre Somme, La société du malaise, qui fait suite à trois ouvrages fondamentaux sur la question de l'individualisme, dont le dernier avait été La fatigue d'être soi, publié en 1998, donc il y a déjà presque un peu plus de 10 ans. Et il s'agit ici, dans le livre d'Alain Ehrenberg, de poursuivre une enquête anthropologique sur la manière dont les sociétés produisent un certain traitement de l'individu. Et au fond, l'originalité de la société du malaise tient, me semble-t-il, à cette comparaison, à cette confrontation entre deux façons de traiter l'individu. De façon sociale de traiter l'individu, qui relève de la France d'un côté et des États-Unis de l'autre, en précisant tout de suite que l'originalité de la démarche d'Alain Ehrenberg me semble justement située dans un rapport particulier entre sociologie et individu, puisque loin de considérer l'individu comme une donnée évidente, qui n'aurait plus ensuite qu'à s'épanouir, s'affirmer, s'autonomiser avec des pathologies qui ensuite pourraient être le versant négatif de cette autonomisation, la dépression par exemple. Le travail d'Alain Ehrenberg consiste à montrer que c'est toujours une certaine façon de faire société qui, à partir de laquelle l'individu peut émerger. Autrement dit, l'individu n'est pas une qualité naturelle, spontanée, qui pousserait à l'air libre. L'individu renvoie toujours à un traitement social de l'individu, chaque société mettant au fond l'accent sur une certaine compréhension et production de l'individu. Et ici, dans le livre La société du malaise, Alain Ehrenberg s'efforce d'analyser deux discours sur l'autonomie de l'individu, produit deux discours et deux ordres de discours et deux ordres de pratiques qui sont en jeu à travers une enquête une confrontation entre, encore une fois, les États-Unis et la France. Et je dirais qu'il s'agit là d'un retour à quelque chose qui est, me semble-t-il, fondateur dans l'anthropologie, une façon de produire une comparaison entre deux formes nationales, de manière pour deux types de nations de produire un lien entre le social et l'individuel. Il y a donc là quelque chose de proprement anthropologique au sens fort du terme. Une façon de revenir aussi à une anthropologie comparée qui, je crois, est peut-être une clé dans l'épistémologie des sciences sociales, alors peut-être à la française, encore que, je ne sais pas, pas forcément, non.
Non, la méthode
Mais en tout,
comparative.
la méthode comparative, non, mais peut-être cette façon de situer les enjeux, enfin, on y reviendra, à quelque chose qui en tout cas renoue avec le grand geste anthropologique. Voilà, avec le grand geste anthropologique. Alors, dans cet esprit, Alain Ehrenberg montre que l'individu américain n'est pas l'individu français, au sens où d'un côté, on a la célébration, entre guillemets, du self, du soi américain, qui est articulée à un esprit d'entreprise. À un esprit d'indépendance, alors que de l'autre côté, le sujet français, entre guillemets, est lui articulé à une réflexion sur l'institution qui devient centrale, de telle sorte que les deux formes de subjectivité, entre guillemets, qui en résultent, connaissent des versants pathologiques singuliers, différents. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Alain, mais peut-être pour lui demander de préciser pourquoi, au fond, il a situé au cœur de son livre cette confrontation États-Unis-France. Et de ce point de vue-là, on peut noter un déplacement par rapport au livre précédent où le cœur du livre était aussi en rapport à une confrontation, mais une confrontation de deux auteurs, hein, Freud, Janet. Il me semble que cette méthode qui consiste à confronter là deux auteurs et ici deux nations dans leur construction singulière est une méthode extrêmement féconde pour traiter des questions mentales, pour traiter du rapport entre le social, le mental et l'individuel, car toute l'analyse d'Alain Ehrenberg consiste justement dans une analyse qui met en rapport le social, l'individuel et le mental, en cherchant à comprendre comment des configurations particulières émergent de de ces relations entre le social, le mental et l'individuel. Donc Alain, au fond, pourquoi cette confrontation France-États-Unis? Comment s'est-elle imposée à ton travail?
D'accord. Bon, merci Guillaume pour cette présentation et bonsoir tout le monde. Alors pourquoi la comparaison? Il y a plusieurs raisons. Je voulais en justifier certains aspects dans mon introduction, mais je vais le dire enfin avec des contenus. C'est que les débats sur ces questions de symptômes, de transformation de la personnalité, de souffrance psychique, etc., je trouve, sont extrêmement franco-français. Et donc, prendre un autre pays, une autre société, permettait de relativiser le cas français, ce qui ne veut pas dire tomber dans une sorte de relativisme où, au fond, chacun est dans sa culture ou sa société. Non, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est, je pense, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on dit souvent que l'homme vit en société. L'homme ne vit pas en société, il vit dans une société particulière qui forme pour lui un tout concret et signifiant dans lequel il est socialisé. Ça, c'est la deuxième raison, je pense. Et mon modèle, parce qu'il y a plusieurs manières de comparer, mais mon modèle est en fait l'anthropologue Louis Dumont, qui, à partir de son grand travail Homo hierarchicus dans la société, sur la société de caste indienne, a, je pense, donné une des perspectives les plus éclairantes sur l'individualisme moderne. J'utiliserai sa théorie hiérarchique tout à l'heure pour expliquer ce que c'est que l'individualisme. Et donc, comparant une société non individualiste avec une société individualiste, mais en réalité, le modèle de ce livre, c'est un autre ouvrage, c'est l'idéologie allemande, qu'il a publié au début, je crois, en 1993, c'est chez Gallimard, et qui est une comparaison entre l'individualisme allemand et l'individualisme français. Bon, je ne disposais pas de la même... heureusement, remarquez, je ne disposais pas d'un livre qui avait comparé l'individualisme américain et l'individualisme français de cette manière-là, et donc j'ai pu construire quelque chose. Alors, et d'une certaine manière, peut-être, même si je vais quasiment pas parler des États-Unis, c'est très bien que tu m'aies permis de dire en un mot ce que je voulais faire. Je reviendrai sans doute encore en un mot sur ce point, mais ça sera finalement secondaire dans l'exposé, parce que j'espère ne pas mettre plus de 25 minutes, de telle sorte que on ait un peu de temps pour les questions et la discussion. Au fond, je pourrais appeler cet exposé malaise dans la société ou société du malaise. Mon point de départ, c'est tout simplement le fait que les émotions, les sentiments moraux, tout ce qui concerne la subjectivité, les affects, s'est passé au centre de la vie sociale. Et nos relations sociales elles-mêmes se donnent aujourd'hui dans un langage de l'affect qui semble se distribuer entre le mal de la souffrance psychique et le bien de la santé mentale ou de l'épanouissement personnel. Et ces transformations se sont opérées sous l'égide de valeurs qui sont rassemblées par le concept d'autonomie qu'ils ont désigné de prime abord. Sur le plan de la liberté individuelle, les valeurs de choix et de propriété de soi, et sur le plan de l'action, la capacité à avoir des initiatives, à décider donc et à agir de soi-même. Alors, dans tous les pays développés, tout ce qui relève de la psychopathologie n'est plus, disons, l'ancienne psychiatrie, encore que la place de l'ancienne psychiatrie, selon les sociétés non plus, n'est pas tout à fait la même, mais on va laisser ça de côté. C'est plus, c'est-à-dire le traitement des maladies mentales, que ce soit les psychoses ou les névroses graves. Ce qui relève de la psychopathologie, c'est donc au cœur de la vie sociale, parce qu'au fond, la santé mentale concerne non seulement la santé, mais aussi la socialité de l'homme d'aujourd'hui. Bon, là, je vais évoquer d'ailleurs un texte que j'ai pas cité dans ce bouquin. C'est un rapport du Surgeon General des États-Unis. C'est le Surgeon General, c'est l'équivalent de notre directeur général de la santé. C'est un rapport de 1999 sur la santé mentale et qui explique dans l'introduction que, bon, les Américains croient au succès, à la réussite, etc., et qu'ils ne se rendent pas compte à quel point le succès, la réussite dans la vie familiale, professionnelle, etc., repose sur la santé mentale. Et donc voilà, la santé, la santé mentale est une santé particulière qui concerne aussi la relation sociale, et tout cela est intriqué, ce qui fait la spécificité dans le domaine de la santé. Alors, simplement, je disais, ces questions-là sont partout au centre, sauf que le thème du malaise dans la civilisation est un thème qui singularise la France, c'est-à-dire, et qu'il est étroitement lié à un autre thème qui singularise la France, c'est-à-dire l'idée que la vie se précarise. Le mot précarité, il y a une étude comparative qui est faite par un sociologue qui s'appelle Jean-Claude Barbier, donc je cite dans le texte, qui a fait une étude comparative et qui explique que l'emploi du mot précarité sans complément d'objet direct caractérise surtout la France, un petit peu l'Espagne et l'Italie, mais particulièrement la France. Sinon, la précarité est toujours la précarité de quelque chose. Alors, partout, on est préoccupé par les conséquences de la flexibilité du travail sur la santé mentale, mais encore une fois, l'emploi du mot sans complément, c'est plutôt français. On n'y fait par exemple référence ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis. C'est pourquoi le titre que j'ai utilisé, « Société du malaise », est en fait un titre durkheimien. Pourquoi c'est un titre durkheimien ? Parce que, pour Durkheim, une société est faite de représentations collectives, de représentations communes qui rassemblent, tout en pouvant diviser les gens, bien sûr, mais qui rassemblent les êtres appartenant à une communauté nationale. Et donc, le malaise dans la société est une représentation collective ou commune que la société française se donne d'elle-même. Bien sûr, dans d'autres pays, vous avez des universitaires, des philosophes, etc., qui vont penser dans les termes du malaise dans la civilisation, du malaise dans la société, mais la formule ne dit rien à l'homme de la rue en Grande-Bretagne ou en France, alors que chez nous, si on parle de malaise dans la société ou de délitement du lien social, eh bien, je pense que ça parle à tout le monde. Et c'est là, évidemment, que ça intéresse le sociologue ou la sociologie. Donc, voilà. Alors, le malaise dans la civilisation, bon, je le résume très rapidement. Il se résume dans la double idée que le lien social s'affaiblit. C'est ce que des sociologues, des philosophes, etc., ont appelé la désinstitutionnalisation, et qu'en contrepartie, l'individu est surchargé d'épreuves et de responsabilités qu'il ne connaissait pas auparavant. D'ailleurs, de nombreux sociologues sont pour abandonner le concept de rôle. Je pense que c'est une absurdité. La preuve de ce malaise, elle se trouve où ? Eh bien, justement, elle se trouve dans ces pathologies sociales, dans ces maladies du lien qui se développent dans notre monde moderne. Et d'ailleurs, d'une manière générale, les professionnels de santé mentale sont préoccupés par les relations, entre l'évolution des valeurs et des normes de la vie sociale et le changement dans les symptômes, voire le changement dans la personnalité. On se demande donc, les symptômes ont-ils changé, les personnalités sont-elles modifiées, etc. Ce sont des questions qui sont récurrentes chez les cliniciens. Je crois que le point de douleur porte en France sur l'opposition entre la notion de personne, personnalité, personnel, et celle d'institution. L'appel à la personnalité, donc, apparaît justement comme le résultat d'un processus de désinstitutionnalisation. Mon point, c'est plutôt de dire que ce n'est pas parce que la vie humaine est aujourd'hui plus personnelle qu'elle est pour autant moins sociale, moins politique ou moins institutionnelle. Elle l'est autrement, et donc c'est, au fond, on est confronté là à un problème d'identification et de caractérisation du changement que donc j'essaie de développer dans ce livre. Alors, ce topos de la désinstitutionnalisation est devenu fort en vogue, et les sociologies qui la théorisent, qu'elles soient pratiquées par des sociologues professionnels, des philosophes, des psychologues ou des neuroscientifiques, eh bien, elles ont un trait commun fondamental, c'est qu'elles sont individualistes. Elles sont individualistes, c'est-à-dire que les analyses que je viens d'évoquer sont prisonnières, je crois, du grand problème qui condamne l'individualisme à la confusion, à savoir l'opposition entre l'individu et la société. Et donc, moi, je propose de passer à une sociologie de l'individualisme. Et pour cela, je propose, disons, une alternative qui concerne à la fois le thème du malaise dans la société et celui de l'individualisme. C'est ce que je vais essayer de développer rapidement dans cet exposé. Disons que je crois qu'un des grands problèmes, c'est qu'il faut situer sociologiquement cette place nouvelle de l'affect dans la vie sociale, hein, en élaborant des critères qui permettent déjà de savoir comment parler de ce souci social et politique pour l'affect et en parler, disons, autrement que par le stéréotype de la perte des repères, du méchant capitalisme globalisé, etc., etc. Parce que, c'est ce que je disais en essayant de commencer à répondre à la question de Guillaume, c'est que on a un débat qui est à la fois franco-français et qui est abstrait en même temps, et les deux sont liés. C'est-à-dire, du cas franco-français, on tire des conclusions extrêmement générales, mettant en cause la modernité, la postmodernité, l'individualisme, le nouvel individualisme, le capitalisme globalisé, etc., etc. Et c'est pour ça que je crois que la perspective comparative est un moyen de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux comprendre notre situation et de manière peut-être un peu plus nuancée. En gros, sans aller sur les États-Unis, ce que je veux rajouter par rapport à tout à l'heure, c'est que le concept de personnalité, ou plutôt de self, hein, qu'on ne devrait pas traduire, pour qu'on peut être soi, bien sûr, mais le concept, je vais quand même dire, de personnalité est une institution aux États-Unis, alors que chez nous, il apparaît comme le résultat donc, de ce processus de désinstitutionnalisation. Et je pense que le concept de self est à l'Amérique, enfin aux États-Unis, ce que le concept d'institution est à la France. Hein. C'est-à-dire le concept de self, ce n'est pas d'abord une catégorie philosophique ou psychologique, c'est une catégorie d'origine sociale. Alors, donc, quelle alternative au thème à la fois du malaise et de l'individualisme, puisque ce malaise est au fond le résultat des transformations de l'individualisme. Repartons de l'opposition individu-société qu'on peut formuler simplement dans une équation qui est récurrente depuis le début du 19e siècle, hein, juste après la Révolution française pour en ce qui concerne la société française, on pourrait dire même c'est la pensée réactionnaire qui le met en avant. L'équation c'est montée de l'individualisme égale déclin de la société ou de ses équivalents, la solidarité, la vie publique, la politique, les repères, etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne la vie en commun qui est la condition de l'homme. Et je crois qu'aujourd'hui, la souffrance psychique et la santé mentale sont le test sociopolitique mesurant le degré de ce déclin de l'idée de société. Alors, la crainte de la dissolution sociale est un trait des sociologies individualistes, mais, il y a un mais, c'est parce que c'est aussi une idée commune à nos sociétés, c'est-à-dire que c'est une idée sociale. Ce qui veut dire qu'il faut à la fois intégrer cette crainte de la déliaison et la dépasser comme sociologie, notamment comme sociologie de l'individualisme. Et bon, mon hypothèse globale, elle est très simple. Hein. Je pense que c'était d'ailleurs la même dans le livre sur la dépression. Mon hypothèse globale, c'est qu'on a assisté à un changement de statut social de la souffrance psychique. Et si l'on accepte l'idée assez simple que nous sommes à la fois les agents et les patients de la vie sociale, mon point, ça serait de dire qu'au fond, qu'au changement dans la manière d'agir en société, eh bien, correspondent des changements dans la manière de subir en société. Donc les changements dans la manière d'agir tournent autour de l'autonomie et les changements dans la manière de subir se donnent dans le concept ou la notion de souffrance psychique qui est notamment dans le vocabulaire français une souffrance sociale, c'est-à-dire une souffrance psychique d'origine sociale. Et donc il me semble qu'avec la santé mentale, on a assisté à ce qu'on peut appeler une généralisation de l'usage d'idiomes personnels pour donner forme et résoudre des conflits de relations sociales. Il suffit de penser au monde de l'entreprise sans rentrer dans les détails, hein, qui sont très importants, bien sûr, les détails. Hein. Ce qui veut dire que l'expression de problème, conflit, dilemme dans les termes de la souffrance est une déclaration qui compte aujourd'hui et pas hier, hein, qui a une valeur telle qu'elle est une raison d'agir en elle-même, c'est-à-dire que les différents doivent s'exprimer dans ce langage parce que ce langage, aujourd'hui, fait autorité. Et donc, je pense que nous avons affaire à une expression obligatoire des sentiments et des émotions. Quand je dis expression obligatoire des sentiments et des émotions, en fait, je me réfère à un très vieil article de Marcel Mauss qui date de 1921, qui s'appelle « Expression obligatoire des sentiments » et qui concerne les rituels de deuil dans les sociétés, je crois, dans les sociétés primitives, pour aller vite. Et je pense que nous avons affaire avec les transformations de la catégorie de souffrance psychique à une telle expression obligatoire des émotions. Cette expression ou ce langage, il est fait de quoi ? Il est fait de choses comme d'entités comme l'infortune, le malheur, la détresse, la maladie. Ce sont les éléments de ce jeu de langage qui consiste en quoi ? Eh bien, qui consiste à mettre en relation le malheur personnel et la relation sociale troublée. Malheur personnel et relation sociale troublée, donc à l'aune de la souffrance psychique, et unissant ainsi le mal individuel au mal commun. Et donc, ce langage, il a sa grammaire, il a sa rhétorique, il régit des significations, il régule des affects, et ce qu'il permet, c'est l'expression socialement réglée de la plainte, parce que la plainte, c'est un acte de discours qui est adressé à quelqu'un, à des interlocuteurs qui doivent la comprendre d'abord, et ensuite, éventuellement, l'utiliser pour agir sur la relation sociale perturbée. Et donc, la santé mentale, à la différence de la psychiatrie classique ou de la psychopathologie traditionnelle, relève de phénomènes généraux de la vie collective et non d'une pathologisation résultant d'un affaiblissement du lien social. C'est plutôt ça le déplacement que j'essaye de faire. Donc, changement de statut social de la souffrance psychique et non affaiblissement du lien social qui entraîne donc cette souffrance psychique dont nous parlons tout le temps. Ce changement de statut, ça veut dire que des pathologies individuelles d'un certain genre, en gros celles qui appartiennent à ce qu'on appelle encore la classe des névroses, sont devenues des affections sociales, c'est-à-dire des malheurs personnels qui trouvent leur signification et leur raison d'être dans les désordres du groupe, ceux de la famille, ceux de l'entreprise, ceux de la société en général. Et donc, de quoi s'agit-il ? À travers ça, il s'agit d'un langage de l'infortune ou de l'adversité qui unit le mal individuel, le mal commun. Et il faut préciser que ce langage de l'infortune ou de l'adversité n'est absolument pas spécifique à l'individualisme. Toutes les sociétés en possèdent. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une forme de traitement des passions. Et je crois ce que l'on oublie à travers cette idée à travers cette représentation en termes de malaise dans la civilisation, c'est l'importance des passions dans la vie sociale. Alors, donc, pour le montrer cela, dans ce livre, donc, je décris, comme l'a rappelé Guillaume, deux récits, deux jeux de langage, et donc qui unissent le mal individuel et le mal commun. C'est-à-dire qu'il donne une signification collective ou commune au mal individuel. Et dans nos sociétés, ce langage, il nous permet une chose, c'est qu'il nous permet de formuler ce qu'on peut peut-être appeler l'inquiétude individualiste, qui porte justement sur la déliaison sociale. Je vais y revenir. Et donc, aujourd'hui, comme je le disais, c'est dans la souffrance psychique et la santé mentale que cette question de la déliaison sociale se pose. Et donc, l'inquiétude individualiste, disait, ça implique justement de préciser ce qu'il faut comprendre par individualisme. Parce que le problème avec l'individualisme, c'est qu'il faut toujours en revenir au rudiment parce que on prononce le mot individualisme comme s'il s'agissait de quelque chose d'individuel alors qu'il s'agit d'un esprit commun. Et là, je vais m'appuyer sur un article de Durkheim qui, je trouve, exprime les choses très, qui montre les choses. Enfin, je pense qu'il dit bien ce qu'est l'individualisme. C'est dans un article de 1898. Je crois que ça s'appelle Les intellectuels et l'affaire Dreyfus. Donc, c'est sur des questions en même temps qui sont politiques. Et donc, il écrit qu'il faut arrêter de confondre individualisme avec égoïsme, comme Tocqueville d'ailleurs l'avait écrit dans De la démocratie en Amérique, ou qu'il ne faut pas le confondre non plus avec utilitarisme. Je cite Durkheim. L'individualisme, écrit-il, c'est la glorification non du moi, mais de l'individu en général. Il a pour ressort non l'égoïsme, mais la sympathie, ce qui veut dire la sympathie pour n'importe quel être humain. Il ajoute, une similitude verbale a pu faire croire que l'individualisme dérivait nécessairement de sentiments individuels, partant égoïstes. En réalité, la religion de l'individu et d'institutions sociales. La phrase est très importante. On peut faire croire que l'individualisme dérivait nécessairement de sentiments individuels. Donc le texte est de 1898. Hein. L'individualisme attribue la valeur à chaque individu, à n'importe quel être humain, à soi-même comme à un autre, parce que l'égalité fait de tout homme un semblable. Donc l'individualisme, ce n'est pas moi d'abord, c'est attribuer la même valeur à chaque être humain, parce que chaque être humain est à la fois libre et égal. Seulement, il faut en même temps rendre compte de la croyance, n'est-ce pas ? Parce qu'elle nous dit quelque chose de vrai en soulignant le côté destructeur de l'individualisme. Je veux dire que, au fond, la difficulté à faire société fait structurellement partie de l'individualisme et n'est pas un mal qui risque de la détruire inexorablement. Pourquoi ? Eh bien, parce que on ne peut pas avoir de société individualiste, c'est-à-dire de société, donc encore une fois, qui donne la même valeur à tout être humain, au premier venu, à n'importe qui, et donc sa chance à chacun. De pouvoir se faire par lui-même. On ne peut pas avoir donc de société individualiste si on ne brise pas les liens de dépendance entre les gens, comme par exemple entre le serf et son seigneur. Hein. Mais on ne peut pas avoir de société en général si les gens sont séparés par l'abîme de leur liberté. Et donc, je dirais que c'est la tension démocratique même qui se formule dans l'opposition individu-société. Donc il faut rendre compte de la valeur de vérité de cette opposition individu-société, mais il faut en même temps la situer et la dépasser comme sociologie. Hein. Elle est l'expression de l'inquiétude individualiste, mais elle ne permet pas de faire, disons, de comprendre l'individualisme de manière approfondie ou authentique. Hein. Autrement dit, ça veut dire qu'il est normal de rappeler à l'individu qu'il vit en société, comme par exemple il est normal de rappeler à l'homme des sociétés lignagères traditionnelles, c'est-à-dire sociétés qui se reconnaissent dans un ancêtre commun, de rappeler à l'homme des sociétés lignagères qu'il doit respecter ses ancêtres, ou à l'homme de la société de caste traditionnelle indienne par exemple, qu'il doit préserver sa pureté. Ça relève, je pense, des mêmes attitudes sociales, donc il n'y a pas de spécificité de nos sociétés par rapport aux autres. Hein. Nous ne faisons pas exception à l'humanité. Bien sûr, il y a une spécificité, mais nous ne faisons pas exception à l'humanité. Donc, quelle est l'alternative alors ? Ben justement, c'est d'introduire dans l'individualisme la solution hiérarchique de Louis Dumont. En gros, je ne vais pas rentrer dans le... Je vais juste résumer ce qui me semble être le cœur de sa pensée sur ce plan. C'est que les valeurs de l'interdépendance sociale, donc qu'il appelle holiste, les valeurs de l'interdépendance sociale sont subordonnées hiérarchiquement aux valeurs de l'indépendance individuelle. Ces valeurs de l'interdépendance sociale ne disparaissent pas, elles sont contenues par les valeurs qui sont de niveau supérieur. C'est ce que Dumont appelle l'englobement du contraire. Hein. Les valeurs individualistes, de liberté et d'égalité, englobent la valeur contraire qu'elles subordonnent de l'interdépendance sociale. Autrement dit, l'individualisme érige chaque individu en valeur suprême tout en dévalorisant l'interdépendance sociale. Et plus précisément, je dirais, l'individu est érigé en valeur suprême grâce à la dévalorisation de l'interdépendance sociale qui donc a sa nécessité, si vous voulez. Hein. Et donc, ce qui caractérise l'individualisme, c'est bien une sorte de tension entre liaison et déliaison. Et je crois qu'on a là un style d'inquiétude qui est caractéristique de la société démocratique. Et nous avons besoin de jeux de langage qui nous permettent de formuler la difficulté à faire société. Alors, la conséquence de ce changement, je vais terminer en fait sur ce point, la conséquence de ce changement, elle est assez concrète, c'est-à-dire qu'il faut d'abord arrêter de penser que plus il y a d'individualisme, moins il y a de société. Le problème ne se pose pas comme ça. L'individualisme n'est pas un choix que l'on peut ou ne pas que l'on peut faire, parce que c'est au sein de toute façon de sociétés individualistes que les choix se font. Le concret, c'est le suivant, c'est que le, et je reviens là au discours du malaise, le discours du malaise, je crois, confond un faux problème et un vrai problème. Le faux problème, c'est celui de la cohérence sociale. Le vrai problème, c'est celui de la cohésion sociale. Alors, le discours du malaise voit, disons, une incohérence dans la modernité. Il se situe dans toute une tradition, d'ailleurs, sur l'incohérence de la modernité, parce qu'il pense la vie en commun dans les termes individualistes de l'opposition individu-société, mais si on emploie l'alternative du raisonnement hiérarchique de Dumont, c'est-à-dire le fait fondamental que l'individualisme englobe sa valeur contraire, de l'interdépendance, en lui donnant une place subordonnée, eh bien du coup, nos sociétés apparaissent tout aussi cohérentes que n'importe quelle société dite traditionnelle, etc., etc. Donc, aussi cohérente, c'est-à-dire que l'institution de signification sociale qui donne à chaque individu la valeur suprême implique nécessairement de subordonner les valeurs de l'interdépendance. Et donc, cette position subordonnée, elle peut conduire acteurs et observateurs à la perdre de vue, et c'est même une attitude récurrente, donc le discours de la déliaison sociale est une attitude récurrente, mais c'est fort loin d'être une raison pour suffisante pour penser qu'elle a disparu et qu'au fond, on ne fait plus société comme le pense un certain nombre de collègues, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'ils pensent, c'est que bon, la vraie société, c'était avant, quand on était dans un monde de solidarité collective, n'est-ce pas, où nous étions dominés mais protégé, névrosé, mais structuré. Et je pense qu'il y a un malentendu sur ce qui fait la vie en commun et qu'au fond, le rôle du sociologue comme du philosophe, c'est de clarifier les malentendus et les confusions et d'essayer de mieux situer les problèmes. En revanche, et nos sociétés sont bien confrontées, et notre société, je veux dire en particulier, je ne vais pas parler de l'Amérique, est bien confrontée à des problèmes de... Enfin, si, non, c'est toutes les sociétés, mais il y a une particularité française là-dessus. Nos sociétés sont bien confrontées à des problèmes de cohésion sociale qui résultent de la perte d'efficacité des systèmes de protection sociale et de lutte contre les inégalités qui se sont instaurés au cours du XXe siècle. Et c'est précisément ce dont nous débattons en Europe, disons, au moins depuis le début des années, des années 1990. Je dirais que, là, je vais être très vite sur ce point que je ne veux pas, développer. Disons que derrière cette thématique, enfin, plutôt au cœur, mais difficilement visible, de cette thématique de l'affaiblissement du lien social, de l'affaiblissement du malaise dans la société, etc., etc., de la crise des institutions, je pense que le grand problème, c'est un changement majeur dans les inégalités pour lequel, disons, les arrangements institutionnels français sont relativement démunis, c'est-à-dire le discours du malaise monte un profond désarroi face à ces changements des inégalités, parce que je pense que c'est le changement dans l'égalité, c'est-à-dire que, je le résume en un mot, parce que je n'ai pas le temps évidemment de développer, que sa teneur, elle consiste en une inégale distribution des capacités personnel face aux exigences du marché, du travail et de l'emploi, parce qu'on est rentré dans une économie de la connaissance, c'est-à-dire avec des exigences au niveau du travail qui ne sont plus celles d'avant, et notamment les deux points centraux qui justement mettent la personnalité en avant, c'est la nécessité de des compétences que l'on appelle relationnelles, psychosociales, etc., c'est-à-dire des capacités à pouvoir agir dans des relations humaines, capacité sociale et capacité cognitive, puisque aujourd'hui le niveau d'éducation est beaucoup plus décisif dans la situation que les enfants auront à l'âge adulte. Donc il y a une dimension cognitive et relationnelle dans le travail et l'emploi qui n'existait pas auparavant et qui met en avant la référence à la personne personnalité. Et ce changement dans les inégalités, au fond, elle met en cause la façon française de concevoir l'égalité, qui est essentiellement une égalité de protection. Une égalité de protection, donc sous la houlette de l'État, qui représente la solidarité de la société à l'égard de chacun, et notamment des plus faibles. Donc c'est la tradition de ce qu'on appelle l'État instituteur du social, c'est-à-dire qui met en mouvement la société, et celle-ci, au fond, n'ayant pas de valeur en elle-même, ce qui fait d'ailleurs que nous sommes une société antilibérale ou illibérale, c'est-à-dire que nous nous méfions de la confrontation des intérêts au sein de la société, parce que ce sont des intérêts particuliers qui doivent être dépassés dans l'intérêt général. Et disons que je crois que là, on est sans doute au cœur de l'inquiétude française du thème du malaise, c'est-à-dire qui fait du malaise une représentation collective que, la société se donne d'elle-même. Et donc, je crois que on a... c'est pas un faux problème, le malaise dans la société. Hein. C'est ça que le point sur lequel je veux insister. C'est un problème à situer, à éclairer. Je ne dis pas c'est une idéologie et il faut donner des arguments contre cette idéologie. Non, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il faut l'intégrer dans une perspective qui l'éclaire. Et donc on a aujourd'hui une crise de l'égalité à la française parce que le monde de l'autonomie, dans ce monde de l'autonomie, l'égalité aujourd'hui est plutôt une égalité d'opportunité dans laquelle il s'agit de rendre les gens capables de saisir des opportunités en les aidant à entrer dans la compétition et à s'y maintenir. Hein. Et donc, moi, je plaide, je ne peux pas rentrer dans les détails, je plaide pour une politique de l'autonomie, c'est-à-dire une politique qui est centrée sur les capacités d'agir des personnes, et plus particulièrement celle des couches sociales qui subissent les inégalités sociales. Donc, il ne s'agit pas de dire ou la protection, ou la capacité, ou éventuellement l'opportunité, bon, peu importe pour le moment, il ne s'agit pas de dire l'un ou l'autre. Hein. Je crois que le concept de capacité, notamment tel qu'il a été mis en relief par l'économiste et philosophe Amartya Sen, dont le dernier livre vient de sortir en français, L'idée de justice, qui est extrêmement clair et d'ailleurs qui est un livre plutôt grand public, hein, tel qu'il a été mis en avant par Amartya Sen, mais aussi je pense à des sociologues comme le danois Gösta Esping-Andersen ou le français Jacques Donzelot. Je pense que ça permet de redéfinir la substance de la solidarité sociale dans ce monde de mobilité et de concurrence généralisée qui s'est imposé en 30 ans, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Le problème, ce n'est pas une question de goût. Le problème, c'est, qu'est-ce qu'on fait par rapport, dans cette nouvelle situation, sur les questions d'inégalité et de justice, hein. Alors, ça donne une large place à la responsabilité individuelle. On va dire que c'est plutôt un thème de droite, traditionnellement, mais c'est... Là, et c'est là une ressource pour la gauche, il implique une responsabilité collective, une responsabilité commune dans la société, en essayant de substituer l'idée qu'il faut protéger les gens, mettre de nouvelles protections, comme par exemple pense Robert Castel, par celle d'égale distribution des moyens d'agir. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.
Moi, j'aurais juste aimé peut-être, du coup, nous donner la dernière possibilité de te poser une question sur l'un des points, parce que je vous encourage vraiment à lire aussi ce texte. Je parlais d'anthropologie comparée au départ. C'est aussi dans un autre registre, au sens où le travail d'Alain croise des discours, vous l'avez remarqué déjà dans l'intervention, pour ceux qui n'ont pas lu le texte, des discours vraiment de statut très différents. La sociologie, l'ethnologie, la philosophie, la psychiatrie, la psychanalyse, et également la littérature. Et tu as des analyses littéraires de romans américains vraiment remarquables dans l'ouvrage.
Je te remercie.
Et je voulais savoir considérais entre guillemets le discours littéraire comme spécifique dans l'ordre des discours que tu analyses, ou si au contraire tu l'envisageais comme justement un type de témoignage particulier, ou au contraire au même titre que les autres discours au fond. Est-ce qu'il y a une particularité pour toi de la littérature dans cette capacité de mettre en représentation, parce que tu as parlé de représentation, la littérature elle représente, elle
absolument.
Fait revenir dans le centre du texte des choses qui sont à la périphérie. Est-ce que c'est vers là que tu
utilises... D'une certaine manière, tu as répondu à la question que tu me posais. C'est évident. La littérature, c'est un moyen de penser. C'est pas, je ne considère pas que c'est une sociologie, etc. C'est pas ou la littérature ou la sociologie. Ça dépend quelle sociologie, quelle littérature, évidemment, etc., etc. Hein. Oui, c'est pas juste un témoignage particulier. Moi, j'ai beaucoup utilisé Saül Bellow, qui m'a accompagné, si je puis dire, dans mon voyage américain, enfin, mon voyage en imagination. Oui, parce que je trouve qu'il y a un regard, une peinture de l'individualisme américain, justement, et c'est, je ne sais plus dans quel roman, mais je le cite, où il dit c'est l'Amérique qui a inventé l'individu autonome qui souffre de, toutes ces, de tous ces mots que les sociétés paysannes ne connaissaient pas. Oui, c'est dans le don, je crois que c'est dans le don de Humboldt, hein, le nom de Humboldt, qu'il dit ça. Oui, c'est pas simplement un témoignage particulier, je pense que c'est effectivement un instrument de travail, et c'est vrai que pour les États-Unis, j'étais très influencé par un américaniste français qui s'appelle Pierre-Yves Pétillon, et qui m'a... j'ai pas eu une sorte de Pétillon français qui m'aurait permis de m'appuyer, je sais pas, sur certains auteurs français, mais bien entendu, ça aurait pu être fait à partir de la littérature, au fond, hein, mais c'est pas été le cas. Donc c'est pas symétrique, les États-Unis et la France, dans mon traitement, puisque j'ai pas d'usage de la littérature en France et que j'ai l'usage de la littérature. Enfin, je fais une petite, je consacre quelques pages au premier roman de Saül Bellow qui s'appelle L'homme en suspens, qu'il a publié en 1944, et Bellow d'une manière générale. Voilà, j'ai beaucoup lu Bellow pendant ces deux, trois dernières années. Hein. Donc oui, c'est parce que je pense que ça fournit une bonne représentation de l'individualisme américain et de ses dilemmes, hein, et de manière particulièrement fine.
Ouais. Merci beaucoup, Alain.